Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous. Financement des partis politiques en Côte d'Ivoire. Désormais, les fonds indexés non plus au budget général de l'État, mais aux recettes fiscales de l'État. Projet de loi voté à cet effet par l'Assemblée nationale lundi à Abidjan. L'éclairage du député Blessy Chrysostome du PDCI RDA dans quelques instants. Quatrième sommet de l'initiative G20 Compact With Africa en Allemagne. L'événement a accueilli du 20 au 21 novembre à Berlin des chefs d'État africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, sur les retombées économiques pour le continent. Vous entendrez Dr Germain Cramaux, expert en économie. Au Burkina Faso voisin, l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro a rencontré hier mardi le capitaine de transition Ibrahim Traoré. La revue des titres de la presse, ce sera avec Jean-Claude Comé. Et puis la rédaction aujourd'hui recevra comme invité Mariam Si Diawara, la promotrice de Africa Web Festival. On dira plus sur cet événement prévu du 22 au 23 novembre à Abidjan. Sur ce rendez-vous du digital, Mariam Si Diawara sera interrogée en fin d'édition par Francis Cassi. Le président de la République Alassane Ouattara a été reçu hier mardi 21 novembre au palais de l'Élysée à Paris par son homologue français Emmanuel Macron. Les échanges ont entre autres tourné autour des projets de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. 7 projets de loi ont été adoptés en séance plénière par l'Assemblée nationale le lundi 20 novembre à Abidjan. Au nombre de ces projets de loi, celui relatif au budget 2024 et un autre lié au financement des partis politiques sur fonds publics. Sur le dernier cité, écoutons le député Blessy Chrysostome du PDCI RDA.
En réalité, il n'y avait qu'un seul projet de loi qui connaissait une modification. C'est le texte qui porte sur le financement des partis et groupements politique par des fonds publics. Donc ce qu'il faut retenir essentiellement dans cette modification de loi sur les partis politiques, c'est que désormais, le fonds est indexé non plus au budget général de l'État, mais aux recettes fiscales de l'État. Il faut comprendre que initialement, les partis politiques sont des associations privées. Donc ces partis politiques doivent être financés par la cotisation de leurs membres et de leurs adhérents. Donc l'apport par les fonds publics que fait l'État n'est qu'une contribution. Et puis il faut noter deuxièmement qu'il est interdit aux partis politiques de recevoir des fonds et des subventions de l'extérieur, de telle sorte que le budget de l'État présente d'abord des recettes internes, puis des recettes qui viennent de l'extérieur. La question qui a été longuement discutée, c'est que les partis politiques sont financés par rapport au nombre d'élus. Donc au Sénat, ça pose un problème. Quel est l'impact des sénateurs qui sont désignés par le président de la République sur les fonds qui sont alloués? On nous a dit que le président de la République n'était pas lié par une désignation partisane, donc il prenait des expertises à gauche, à droite, et que cette incidence-là, c'était du choix des personnes, leur commune volonté. On a bien accepté cela. Mais il faut dire que la CAJ met un point d'honneur à faire en sorte que les députés comprennent en réalité les tests qui leur sont proposés.
Le député Blessy Chrysostome du PDCI RDA. Revenons sur la journée nationale de la paix célébrée le 15 novembre dernier. Profitant de l'occasion, le WANEPSI, réseau ouest-africain pour l'édification de la paix section Côte d'Ivoire, a rendu hommage à feu président Henri Conan Bédié, initiateur de cette journée. Par ailleurs, Marcovi appelle à une édification véritable de la paix en Côte d'Ivoire.
C'est l'occasion de saluer la mémoire de l'ex-président Henri Conan Bédié qui est à l'origine de cette journée. Cette journée est l'occasion de se commémorer positivement les avancées faites à la suite des différentes crises politiques qui ont donné lieu à des pertes en vie humaine, à des destructions de biens ou qui ont créé de la distension entre les fils et filles du pays. Après 27 ans, je pense que nous pouvons aujourd'hui être contents des efforts, des actions qui ont été menées par les les différents acteurs, notamment la société civile, pour l'édification de la paix. Tout n'est pas encore terminé. Il reste encore des choses à faire, beaucoup d'actions à accomplir pour pouvoir assurer tantôt une paix véritable par le renforcement des institutions de la République, un renforcement aussi de l'action de la société civile pour qu'elle soit aujourd'hui une force de proposition encore plus importante qu'elle n'a été auparavant.
Dans un pays tel que la Côte d'Ivoire, qui a connu une guerre par rapport à une crise post-électorale, quel sens on peut donner à la paix dans un tel pays?
Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les acteurs politiques, du pouvoir, de l'opposition, la société civile, il faut que tous ensemble, on trouve les voies et moyens pour donner du sens à cette paix, pour construire justement une paix à l'image de la Côte d'Ivoire, à l'image de ce peuple inclusif et multiculturel.
Marc Ovi, président du WANEPSI, réseau ouest-africain pour l'édification de la paix section Côte d'Ivoire, joint par Constant Maïlé. Autre célébration, celle de la Journée mondiale de l'enfance le 20 novembre. À San Pedro, l'événement a été organisé par les jeunes reporters et la coalition des organisations des enfants de la ville. Ces derniers ont fait un plaidoyer pour le respect des droits des enfants. On en sait plus avec notre correspondant dans le Bassa Sandra, Kofi Benson.
Les enfants adultes de demain pour cette journée mondiale de l'enfance ont décidé d'être dans la peau de certaines autorités de la ville avec des messages visant au respect de leurs droits.
J'ai pu imiter le préfet et c'est une bonne chose pour moi parce que l'avenir que j'ai dans ma tête, c'est d'être préfet. Nous tous, on doit se mettre au travail si nous voulons que nos rêves se réalisent. Pour lutter pour les droits de l'enfant, il faut d'abord sensibiliser les enfants, sensibiliser les parents, accepter les choix de leurs enfants et les laisser s'exprimer.
Bio Plessieux Hulda Daniel. J'étais un peu dans la peau de Madame la Présidente du premier instant de San Pedro. Ça me pousse à beaucoup travailler pour être vraiment à ce poste. Elle nous a dit pour être à ce niveau, nous ne devons pas être paresseux, nous devons travailler et aimer la lecture.
La crise climatique est une crise des droits de l'enfant. Thème de la journée doit interpeller les responsables des entreprises, selon Degua Wilfried, responsable des jeunes reporters à San Pedro.
Cette thématique touche aujourd'hui le droit des enfants. Quand une entreprise vient s'installer à travers les activités, à travers la pollution qu'ils vont dégager, ça affecte la santé des enfants, donc le droit à la santé. Raison pour laquelle on dit la crise du changement climatique affecte le droit des enfants.
Pour Nangui Yannick Akadier, représentante du préfet de San Pedro, la responsabilité des adultes détermine l'avenir des enfants.
L'enfant est notre futur. Ne pas en prendre soin, c'est détruire et annihiler toute possibilité de développement.
Cette célébration a eu l'appui technique et financier de l'ONG Charité Vie et de Save the Children. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Coopération entre le G20 et l'Afrique, invité par le chancelier allemand Olaf Scholz. Une douzaine de chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, étaient à Berlin pour un sommet dans le cadre de l'initiative Compact with Africa du G20 sur les retombées d'une telle rencontre pour les pays africains, notamment pour la Côte d'Ivoire. L'éclairage de Dr Germain Cramo, expert en économie.
Lors de la réunion du G20 de 2017, il a été lancé l'initiative Compact with Africa, qui est une approche partenariale visant à mettre en œuvre des réformes favorables à l'amélioration de l'environnement et la mobilisation des ressources au profit du secteur privé. Il y a un intérêt particulier pour le continent africain parce que c'est un continent d'où proviennent beaucoup de matières premières au profit de ces pays. Et aussi, comme notons aussi dans ces dernières années, les problèmes de migration aussi vers les pays européens. Et ce continent aussi constitue un marché potentiel de consommateurs pour ces pays.
Alors, en termes de bilan de cette initiative Compact with Africa, créée en 2017, comme vous l'indiquez, qu'est-ce que cela a pu apporter au développement de ces pays membres, notamment africains, dont la Côte d'Ivoire?
Le rapport qui a été produit en 2022 indique que ces pays qui ont adhéré à cette initiative ont fait des efforts pour pouvoir améliorer leur environnement des affaires. De deux, ces pays ont bénéficié d'apports financiers. Lorsque vous réalisez des réformes, c'est par exemple le cas pour la Côte d'Ivoire en novembre 2021, où le pays avait reçu un appui de 48 milliards de francs CFA de la part de l'Allemagne, après avoir réalisé certaines réformes dans le cadre du Compact with Africa. Donc voici un peu des retombées concernant cette initiative. Donc, un appui financier et l'environnement des affaires qui permettra au pays d'attirer plus d'investissements directs étrangers.
Dr Germain Cramo, enseignant en économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké, par ailleurs chercheur à la CAPEC, cellule d'analyse de politique économique du CIRES, en ligne avec Jean-Claude Comé. Parlons à présent de la journée africaine de la sécurité routière qui se tient chaque année le troisième dimanche du mois de novembre et coïncide avec la commémoration de la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la route. En Côte d'Ivoire, ce double événement a eu lieu le 19 novembre 2023 à Yopougon-Kouté autour du thème jeunesse et sécurité routière. Des détails avec vous, Jean-Claude Mabéa.
Voici quelques données chiffrées en lien avec les accidents de la circulation en Côte d'Ivoire avec Iriebi Raphaël de l'OSER, l'Office de la Sécurité Routière.
2022, 1403 tués. 2021, 1614 tués. 2020, 1507 tués. 2019, 1465 tués sur la route.
Ensuite, le directeur régional des transports, des lagunes et des grands ponts a situé le contexte qui justifie cette double célébration et le choix des lieux de prière. Sako Ibrahim.
Si nous sommes ici, c'est deux volets. Le premier volet, c'est de venir informer l'auditoire à l'effet qu'ils sachent qu'ils sont usagers de la route et donc de faire très attention et de respecter les principes de la sécurité routière. Deuxièmement, nous avons choisi l'église et puis les mosquées pour demander une prière pour tous ceux qui malheureusement sont partis à cause de l'accident de la circulation. Pour les vivants, on continue donc de sensibiliser et pour les morts, on va demander aux hommes de Dieu de prier pour le repos de leur âme.
Initiative saluée par l'apôtre Seri Bowie Marcel de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon-Sidi Terminus 40 qui a pris cet engagement.
Incessamment, nous allons créer une structure au sein de l'Assemblée qui s'occupera de tout ce qui est sécurité routière et information concernant toutes ces données et nous allons en tout cas rappeler à nos fidèles la bonne conduite, donc respecter les principes de la route.
Cette 12e journée africaine de la sécurité routière s'est déroulée simultanément dans les 5 villes qui abriteront la 34e édition de la CAN 2023.
L'actualité sur le continent nous conduit au Burkina Faso où Guillaume Soro a rencontré hier mardi à Ouagadougou Ibrahim Traoré, le président burkinabé de transition. L'ancien premier ministre ivoirien a entre autres félicité le capitaine Ibrahim Traoré pour le combat mené contre le terrorisme dans son pays, apprend l'AFP. Nous poursuivons avec l'actualité sous-régionale. Au Libéria, Georges Weah a concédé sa défaite face à Joseph Boakai. Le président sortant a admis la victoire de son challenger lors de l'élection présidentielle du 14 novembre dernier et l'a félicité. Un scénario jugé salutaire pour le Libéria, selon Dr Serine Bamba Gaï. Le politologue spécialiste en relations internationales estime que cette action devrait être méditée par d'autres chefs d'État africains.
Du point de vue symbolique, c'est très important. En Afrique où les élections se terminent très souvent de manière violente, avec beaucoup de contestations. À l'évidence, le geste posé par le président Georges Weah est un geste salutaire, empreint de sagesse. Il a compris que dans un pays polarisé comme le Libéria, contester ces élections allait déboucher inévitablement sur la violence et une crise politique. Et en acceptant sa défaite véritablement, il s'inscrit dans une perspective de grandeur. Et c'est une sortie réussie sur le plan politique, bien qu'étant battu, mais en même temps, il permet à son pays véritablement de pouvoir, avec la nouvelle équipe, amorcer un processus politique qui va se faire dans la paix et dans le calme.
Alors, est-ce qu'on devrait y voir aussi une leçon du Libéria aux autres pays africains, aux autres chefs d'État africains qui, pour certains, ont beaucoup de difficultés à lâcher le pouvoir après une défaite électorale?
Mais oui, parce que tout simplement, dans la plupart de ces pays africains, le pouvoir est géré de manière patrimoniale. Le président estime que le pouvoir lui appartient avec son clan et il ne peut pas accepter de perdre, même de manière démocratique, l'élection présidentielle. Ce qui fait que véritablement, même s'il y a une élection démocratique, le président sortant ne peut pas accepter sa défaite. Il fera tout pour rester au pouvoir.
Docteur Serine Bamba Gaï, politologue spécialiste en relations internationales et en analyse des politiques publiques à l'instant avec Aoussi Pota. La revue des titres de la presse, c'est avec vous Jean-Claude Comé. Bonjour.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. La rencontre hier à l'Elysée entre les présidents français et ivoiriens, Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale, reçu hier également par Ibrahim Traoré, le chef de la junte burkinabé, l'actualité au PDCI et l'arrestation de présumés coupables du meurtre d'une institutrice et de son enfant dans un village de Ban. Ce sont là quelques faits majeurs de l'actualité traités par la presse. S'agissant de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, l'expression « le patriote et l'avenir » rapporte tous que Ouattara et Macron se sont parlé hier. Ce qu'ils se sont dit se propose de révéler Fraternité Matin et l'Inter. Le Matin se réjouit qu'à travers cette rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, c'est l'axe Abidjan-Paris qui est un site bétonné. D'un palais à un autre, l'Inter s'intéresse à une rencontre qui a eu lieu hier entre l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, et le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte burkinabé. Soro Guillaume, reçu hier par les autorités burkinabées, constate le quotidien d'Abidjan. Après le général Tchani, Soro, reçu hier par le capitaine Traoré, souligne sur info pour la nouvelle alliance. Russie au Niger, au Burkina Faso et bientôt au Mali, Soro Guillaume est en phase avec les dirigeants de ces pays qui sont en désaccord avec le régime d'Abidjan. Mais un bémol cependant, selon le Jour Plus, concernant le Burkina Faso, les Burkinabés disent non, non et non par rapport à la présence de Soro dans leur pays. Ils demanderaient, selon le confrère, son arrestation. Vu les partis politiques, s'il y a bien une formation qui fait la une des nombreux confrères, c'est le PDC-RDA, dont le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou-Gikawé, candidat à la présidence de ce parti, explique en une du Nouveau Réveil pourquoi il veut être président de son parti. « Ma candidature est une candidature de dévoi », déclare-t-il en une du dernier Heure Monde. Et par rapport à ses futures ambitions, notre voix rapporte que Gikawé ne veut pas de la présidence de la République. Information que confirme l'Inter par ce titre. Gikawé n'est pas intéressé par la présidentielle de 2025. L'héritage présente lui aussi un autre candidat à la présidence du PDC-RDA, Tidiane Thiam, qui pour ce confrère est un candidat imbattable. Pour concilier la position et aller à ces élections sans heurts, le temps note que le PDC est à la recherche d'un consensus. Consensus pour le matin impossible, puisque selon le journal, les candidats seraient en désaccord sur cette approche. Et l'information avait plongé dans les mois la ville de Mans et au-delà toute la Côte d'Ivoire. Selon Soir Info, le présumé auteur du meurtre d'une institutrice et de son enfant aurait été arrêté. Merci et bonne journée à tous.
À vous le merci Jean-Claude Comé. On vous retrouve dans l'édition de 8 heures. L'invité de la rédaction ce jour est la promotrice de Africa Web Festival. Mariam Si Diawara nous parle de cet événement qui en est à sa 10e édition. Ces rencontres se tiendront les 22 et 23 novembre à Abidjan autour du thème « Comment favoriser l'émergence d'un citoyen numérique africain bien formé ?» Sur ce rendez-vous du digital, Mariam Si Diawara est interrogée par Francis Cassi.
Mariam Si Diawara, bonjour.
Bonjour, cher monsieur de la paix.
Africa Web Festival tient sa 10e édition les 22 et 23 novembre. Alors, c'est quoi d'abord Africa Web Festival?
Africa Web Festival, ça a été un événement créé autour du numérique pour accompagner l'Afrique à bien vivre le numérique. C'est pour ça qu'on l'a créé il y a 10 ans. C'est-à-dire, comment est-ce que l'Afrique va vivre l'avènement du numérique? Comment est-ce que l'Afrique va consommer le numérique, pas comme les Occidentaux, mais comme elle-même l'Afrique avec ses valeurs?
Alors, vous avez déjà eu 9 éditions et celle-ci, c'est la 10e. Quelle est sa particularité?
La particularité, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le numérique, il y a des côtés qui souvent sont des mauvais côtés, mais dus à la mauvaise information, à la non-éducation sur le numérique. Mais il y a aussi les règles et les lois autour du numérique. Par exemple, les gens vont penser qu'ils ont le droit de tout faire sur le numérique, insister les gens ou des choses comme ça. Donc, il faut leur apprendre à vivre ça. Leur dire que c'est un outil, c'est vrai, mais qu'il y a des lois et des règles qu'il faut qu'ils respectent.
Comment favoriser l'émergence d'un citoyen numérique africain? Alors, pourquoi ce thème?
Pourquoi le thème? Parce qu'il faut qu'on apprenne, comme j'ai dit là, à respecter les lois, les droits et les devoirs autour du numérique.
Mais quand on entend parler du numérique, automatiquement, il y a des gens qui pensent aux lettrés, aux gens qui savent lire et écrire.
Oui, mais c'est pas eux seulement qui utilisent le numérique. On utilise beaucoup le numérique aujourd'hui pour l'alphabétisation des gens. Et les les femmes qui ne sont pas du tout lettrées utilisent le numérique pour vendre leurs marchandises. Donc ce n'est pas une affaire de lettrés seulement, au contraire, ça a apporté beaucoup de bien-être à la vie des gens. Par exemple, au début du numérique, il y a dans des pays comme le Kenya ou le Rwanda, où on a rapproché les médecins des ruraux, par exemple. Le fait qu'il y avait le numérique, le médecin n'était pas obligé d'aller dans les villes rurales. On pouvait parler aux gens, on pouvait consulter par le numérique. Tout ça, c'était des bienfaits du numérique. Donc le numérique, ce n'est pas une affaire de lettrés.
Alors, c'est 22 et 23 novembre au Palais de la Culture de Trècheville. L'événement Africa Web Festival se tiendra avec une conférence importante.
Le ministre Amadou Coulibaly qui va parler d'un sujet qui lui tient à cœur. C'est tous responsables en ligne. On a parlé de citoyenneté, de citoyens bien formés. Et puis, après la communication du ministre, il va avoir une conférence de presse. Donc, les journalistes pourront, en marge de l'événement, lui poser toutes les questions concernant ce sujet-là.
Alors, Mariam Sidiawara, quels sont les participants que vous attendez à cette deuxième édition d'Africa Web Festival? Leur profil?
Des lettrés, des non-lettrés, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. C'est un événement pour ceux qui travaillent dans le numérique, mais c'est un événement aussi pour ceux qui viennent apprendre dans le numérique. Pendant notre événement, il y a beaucoup de dames de mon âge qui viennent pour apprendre beaucoup sur le numérique, pour pouvoir interagir avec leurs petits-enfants. Il y a les jeunes qui sont là et qui parlent de tout ce qu'il y a sur l'intelligence artificielle, sur femmes et numérique, sur l'employabilité. Donc c'est un événement de tout le monde.
Dans votre thème, on a cette expression ou ce groupe de mots « citoyen numérique ». Ça veut dire quoi?
Citoyen numérique, ça veut dire quelqu'un qui utilise le numérique de manière citoyenne. C'est-à-dire que si on dit que quelque chose ne se fait pas sur les réseaux sociaux, comme dans la vie de tous les jours, il ne le fait pas.
Quel est l'appel que vous lancez par rapport à l'événement que vous avez baptisé Africa Web Festival?
Le numérique aide à la création d'entreprises. C'est facile, les jeunes peuvent créer des entreprises et les vieux peuvent mentorer ces jeunes-là. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas numériques, mais qui sont des mentors en affaires, qui accompagnent ces jeunes en affaires. Donc, le numérique peut aider dans beaucoup, beaucoup de domaines. Accompagner l'éducation, accompagner l'agriculture, accompagner la santé.
On a aussi oui dit que Africa Web Festival entend se donner une nouvelle orientation. C'est laquelle?
On a une préoccupation aujourd'hui, c'est la santé mentale mondiale. L'entrepreneuriat baisse partout parce que la santé mentale en entrepreneuriat est très difficile en ce moment. Donc, les gens ne créent plus d'entreprises. Et s'il n'y a pas de création d'entreprises, ça fait que les gens ne peuvent pas travailler et ça fait que la vie est difficile. Donc, l'entrepreneuriat partout, l'entrepreneur est en quête de sens. Comment aider? Comment accompagner la santé mentale dans les entreprises? Parce que dans nos pays-là, on a l'impression que quand on parle de santé mentale, c'est la folie seulement. Mais non, il y a la dépression, il y a ci, il y a ça, qui ne sont pas des folies, mais qui sont des cas où la personne se pose des questions, où il faut l'aider, il faut l'accompagner. Comment accompagner l'humain?
Quel est le lien entre la santé mentale dont vous parlez et le numérique?
Parce que le numérique accompagne dans tout, dans la santé, dans l'éducation, dans tout.
Mariam Sidiawara, je vous remercie.
Merci, heureuse d'être sur votre radio, la paix.
Aujourd'hui, invitée de la rédaction, Mariam Sidiawara, la promotrice de Africa Web Festival, était avec Francis Cassie. C'est ce qui marque le point final de ce 7 heures, dont voici le rappel de l'essentiel. Financement des partis politiques en Côte d'Ivoire désormais. Les fonds indexés non plus au budget général de l'État, mais aux recettes fiscales de l'État. Un projet de loi voté à cet effet par l'Assemblée nationale lundi à Abidjan. Vous avez eu l'éclairage du député Blessis Chrysostome du PDCI-RDA en début d'édition. Et puis au Burkina Faso voisin, l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro a rencontré hier mardi le capitaine de transition Ibrahim Traoré. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.